Parcours de migrants.
Histoire singulière.
Bonjour et bienvenue dans Parcours de migrants, histoire singulière.
L'émission que vous pouvez écouter sur les ondes 88.9 de RMZ et en podcast sur le site du lycée Nelson Mandela, rubrique RMZ.
Ici Maxence
et Lucas, vos animateurs. Notre classe, la seconde H, a travaillé sur le thème des migrations internationales avec la journaliste Pauline Bandelier.
Dans le monde, 3,5% de la population migre chaque année, soit environ 240 millions de personnes. Leurs droits et leurs libertés sont souvent remis en question.
Tout d'abord, nous allons écouter l'histoire de Melvins et sa mère qui sont des migrants d'Albanie.
Nous allons entendre Cassandra et Alaïs qui vont nous parler de l'histoire de Corneille, puis l'histoire d'un migrant gabonais, aujourd'hui français, le père de Kathleen.
Et pour finir, sur un Syrien qui a fui la guerre et tente de reconstruire sa vie en France.
Mais tout de suite, Melvins qui nous a rejoint en plateau. Bonjour, je crois que tu as des nouvelles à nous raconter.
Oui, alors, il n'y a pas très longtemps, j'étais devant le tribunal administratif de Poitiers pour essayer à nouveau de les convaincre de me donner un titre de séjour. Mais l'avocate n'est pas venue, donc j'ai dû me défendre tout seul avec ma mère et ma sœur à mes côtés. Encore une fois, on a été refusé. Mais il y a encore une prochaine étape qui est la même, sauf que ça sera devant le tribunal administratif de Bordeaux avec un avocat à nos côtés cette fois-ci. Moi et ma famille, on aimerait avoir un titre de séjour comme certains Albanais à Poitiers et non se retrouver comme d'autres à quitter le pays pour retourner en Albanie.
Merci Melvins et bon courage à toi. Tout de suite, on écoute le reportage de Melvins, Axel et Lucas.
Aujourd'hui, nous accueillons Ali Bejazi Melvins qui vient d'Albanie et il est réfugié. Comme lui, en 2018, plus de 8000 Albanais ont déposé leur demande d'asile. C'est la deuxième nationalité qui demande le plus d'asile en France. La plupart des Albanais fuient la pauvreté et le chômage, ce qui n'est pas satisfaisant pour avoir l'asile en France. D'autres, comme Melvins, fuient les conflits familiaux. En 2018, seulement 17% ont obtenu le statut de réfugié.
Bonjour, je m'appelle Grabova Janaela, j'ai 35 ans et je suis la mère d'Ali Bejazi Melvins. La raison de mon départ est mon père, j'avais un conflit avec lui. Je suis partie par ma ville, Kiev Vlor, j'ai pris le bateau pour arriver en Italie, ensuite j'ai pris le train pour arriver en France. Le plus difficile était de ne pas pouvoir parler la langue française, mais aussi de ne pas avoir des amis. J'ai eu l'aide de ma cousine. J'ai toujours pas de titre de séjour. L'attente se passe très mal. Comme bon souvenir, j'ai ma mère, mais comme elle est décédée, j'ai plus de bons souvenirs.
Bonjour Melvins, on vient d'écouter ta maman, et maintenant est-ce que tu peux nous parler un peu de toi?
Bonjour Lucas, moi je m'appelle Ali Bejazi Melvins, j'ai 15 ans. Je suis né le 10 février 2005 en Albanie et j'aime le foot.
Pourquoi tu l'as ?
On a quitté l'Albanie en raison d'un conflit avec mon grand-père du côté de ma mère.
Comment es-tu arrivé jusqu'ici ?
Je suis parti de ma ville d'Albanie qui est Vlorë. J'ai pris le bateau pour arriver en Italie. Et de l'Italie jusqu'en France, j'ai pris le train.
Est-ce que tu as reçu de l'aide quand tu es arrivé en France ?
Oui, de ma cousine qui déjà elle m'attendait à Paris quand je suis arrivé, qui m'a ramené jusqu'à Poitiers et puis qui nous a montré beaucoup de choses. Plus qu'un mois et demi et cela va faire 7 ans que je suis en France.
Est-ce que tu as tes papiers ?
Non, toujours pas. Malgré mes 7 ans en France, toujours pas.
Comment se passe l'attente ?
À chaque demande, la réponse est toujours la même, négatif, négatif. Du coup, bon, ça commence à faire beaucoup.
Et quelles ont été les difficultés en arrivant ?
Le plus difficile, c'était de ne pas pouvoir parler la langue française et de ne pas connaître la ville. Mais après, ça, avec le temps, ça s'est bien passé. Et puis aussi, de connaître personne, c'était dur aussi.
Est-ce que tu t'es bien intégré ?
Oui, je me suis bien intégré à l'école. Même si je ne parlais pas la langue française, je trouve que je me suis plutôt bien débrouillé.
Qu'est-ce que tu voudrais faire dans l'avenir ? Voudrais-tu retourner dans ton pays natal ?
Non, avec ma famille, c'est clair qu'on veut rester en France et puis
avec les papiers, on espère un jour.
Merci à Melvins, Axel et Lucas. Et maintenant, c'est au tour d'Alaïs et Cassandra pour le portrait de Corneille. Bonjour les filles, pourquoi avez-vous choisi de nous parler de Corneille ?
Bonjour, nous avons choisi le chanteur Corneille pour sa personnalité, pour son parcours et ses performances en chant. Avant de connaître le succès, Corneille a survécu au génocide rwandais où ses parents, ses frères et sa petite sœur sont morts. Nous ne pouvions pas l'appeler ou l'interviewer car il habite à Paris. Le Covid n'a pas arrangé les choses.
De son vrai nom, Cornelius Ningura a vécu le génocide rwandais. Il a décidé de prendre la fuite. Corneille, né en Allemagne, à Fribourg-en-Brisgau, le 24 mars 1977. Ses parents sont rwandais et font leurs études d'ingénieur. À 6 ans, il part de l'Allemagne et découvre son pays d'origine, le Rwanda. Il passe son enfance à Kigali, la capitale du Rwanda. Sa mère est Hutu et son père Tutsi. En 1993, il se découvre une passion pour la musique. Il crée un groupe de R&B au Rwanda et s'initie à l'écriture de textes ainsi qu'à la composition musicale. Ses influences sont des stars afro-américaines comme Marvin Gaye, Stevie Wonder et Michael Jackson. Dans la même année, le groupe enregistre une démo avec laquelle il remporte le concours Découverte 1993 de la télévision rwandaise.
1994 est un tournant dans la vie de Corneille.
C'est l'année du génocide rwandais. Comme des millions de personnes, Corneille perd ses proches. Dans la nuit du 15 au 16 avril, un groupe armé entre dans la maison et tue ses parents, ses deux frères ainsi que sa petite sœur.
Corneille assiste au massacre mais réussit à survivre grâce à une coupure de courant qui lui permet de se cacher derrière un canapé. Suite à ça, il s'enfuit à des jours de marche au Zaïre, puis arrive en Allemagne, où il se réfugie chez un couple ami de ses parents.
Le génocide des Tutsis au Rwanda se déroule du 9 avril au 17 juillet 1994. Il dure plus de 3 mois et 10 jours. La population des Tutsis en est victime et les Hutus en sont les auteurs. Ce génocide a provoqué plus d'un million de morts et une dizaine de milliers de Tutsis ont pris la fuite. C'est la création de la première république et de l'indépendance du Rwanda. La différence entre ces deux peuples, les Tutsis désignés, éleveurs possesseurs de nombreuses vaches, tandis que les agriculteurs, moins haut placés dans la hiérarchie socio-économique, étaient dénommés les Hutus.
À l'âge de 20 ans, Corneille migre au Canada pour poursuivre ses études de commerce à l'Université Concordia de Montréal. Quelques mois après son arrivée, il fait la rencontre de Pierre Gaye et Gardy Martin, avec lesquels il forme un groupe de R&B, One. C'est le début de son succès dans la musique. Corneille commence sa nouvelle vie avec le statut de Canadien. Il se marie en 2006, 9 ans après son arrivée au Canada. Malgré ce drame personnel, Corneille décide de poursuivre son rêve au Canada. Corneille obtient la citoyenneté canadienne en novembre 2004. Il n'a ni le droit du sol ni le droit du sang, alors il doit trouver un autre moyen de devenir citoyen canadien. Pour avoir cette nationalité, Corneille doit avoir résidé 3 ans sur les 4 années passées au Canada. Il doit passer un examen de citoyenneté, puis savoir parler le français ou l'anglais. Ce qui n'est pas un problème pour lui, car il parle 4 langues, dont le français et l'anglais. Il doit aussi prêter un serment aux lois et aux coutumes du Canada pour obtenir la citoyenneté canadienne.
Corneille n'a pas choisi d'avoir la nationalité française malgré son succès dans ce pays. Il dit qu'il ne veut pas quitter le Canada car c'est ici que se trouve sa femme, ses beaux-parents ainsi que ses enfants qui l'inspirent dans ses textes. Il dit aussi qu'il est très attaché à ce pays, que le Québec c'est chez lui. Corneille raconte être tombé amoureux du Canada et que c'est dans ce pays qu'il a décidé d'y vivre.
Merci les filles, c'était super. Maintenant une interview intime qui vont nous parler des conditions des étudiants étrangers en France.
C'est le père de Kathleen qui nous a raconté son arrivée à Bordeaux en 1995 pour faire ses études. d'origine gabonaise, le père de Kathleen, vient seulement en décembre 2020 d'obtenir la nationalité française.
Alors Kathleen, comment était cette interview de ton père ?
C'était intéressant. J'ai appris plein de choses que je ne savais pas. Par exemple, qu'il faut beaucoup de démarches avant d'obtenir la nationalité. J'ai aussi pris conscience de la solitude qu'il a pu éprouver pendant ses années d'études loin de sa famille. Ce n'était pas facile pour lui de manger tous les jours à sa faim.
C'est une situation qui ne s'est pas améliorée pour les étudiants africains en France. Ils doivent aujourd'hui payer des frais d'inscription de près de 3000 euros par an.
Merci à tous les deux. On écoute tout de suite l'interview de Yanis et Kathleen.
Depuis 1985, les migrations internationales ont augmenté d'environ 250 millions en plus de 25 ans. Certaines personnes quittent leur pays pour diverses raisons, mais les deux raisons principales sont l'insécurité et la guerre. Plusieurs pays de l'Union européenne, comme l'Italie, l'Allemagne ou la France, accueillent des réfugiés d'Irak, d'Afghanistan ou du Soudan. D'autres partent pour des raisons financières, de logement ou politiques. En France, les droits politiques ne sont pas reconnus aux étrangers. Ils peuvent bénéficier de la sécurité sociale. Il y a environ 200 000 étrangers accueillis chaque année légalement en France. C'est un chiffre stable depuis 2013. Plus en plus de jeunes décident de migrer vers les pays développés pour étudier. Pour que ces jeunes viennent étudier en France, ils doivent posséder un visa long étudiant. Pour l'obtenir, il faut faire partie d'un des 41 pays qui possèdent la procédure Études France. Ce visa permet de suivre des études pendant une période de 4 mois à 1 an et de voyager librement dans les pays de l'espace Schengen. Nous avons pu interviewer une de ces personnes qui est partie de son pays natal pour venir en France. Il s'appelle Franck Mbia, il a 45 ans et cela fait 26 ans qu'il vit en France. Franck est né au Gabon en 1975. Plus jeune, il s'est trouvé une passion pour les matières scientifiques. À ses 20 ans, en 1995, il décide de venir en France, plus particulièrement à la fac de Bordeaux, pour faire des études scientifiques. L'État gabonais lui offre une bourse. Il raconte qu'il n'avait pas vraiment d'attente et qu'il a une vision différente de la France.
Ce n'est pas ce qu'on nous vend.
Et qu'elle n'est pas la même dans les médias. Pendant ses études, il était difficile pour lui de gérer son argent. Il faut manger et se déplacer.
La solitude était le sentiment le plus douloureux.
Il était seul et n'avait personne pour le soutenir. Il nous confie.
Ce qui me manque le plus sont les plats de ma maman qu'elle me préparait quand j'étais petit.
Après la fac,
c'était plus simple à l'époque de faire une demande pour rester en France. Il suffisait d'aller à la préfecture et de montrer sa carte étudiant pour qu'il la recharge.
En 2017, Franck décide de demander la nationalité française. C'est un décret présidentiel, donc très long et difficile.
Il y a beaucoup de critères et de paperasse. Ils vérifient bien que vous avez un travail et que vous vous occupez de votre famille. Ils font aussi une enquête de voisinage pour savoir si vous ne posez pas de problème. Il faut demander des papiers qui venaient du pays pour prouver qu'ils sont officiels, donc c'était long.
C'est qu'en décembre 2020 qu'il reçoit la nationalité française.
Bonjour Mathis et Dorian. Pas facile de recommencer sa vie à zéro et de laisser derrière soi sa famille.
Et oui, c'est pourtant ce qu'a dû faire Maher Al-Khoury, un réfugié syrien, aujourd'hui accompagné par le Buddy System Réfugié. L'association Poitvine l'aide à apprendre le français et à entreprendre des démarches administratives.
Aujourd'hui, Maher a retrouvé du travail, mais ses parents et sa sœur, restant en Syrie, lui manquent.
Je crois que vous n'avez pas pu malheureusement rencontrer Maher.
Oui, en effet, avec le Covid, il est compliqué de se voir, donc on s'est parlé au téléphone. On a aussi essayé d'apporter des informations sur la guerre en Syrie.
Maher Al-Khoury est un Syrien et a étudié l'économie en Syrie. Il est marié et il est arrivé en France en 2018 et a obtenu le statut de protection subsidiaire. La protection subsidiaire est une protection internationale fournie à un demandeur d'asile qui ne répond pas aux critères pour devenir réfugié, mais pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courait dans son pays un risque réel de subir une atteinte grave. La protection subsidiaire est l'autre forme de protection. Elle est attribuée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'obtention du statut de réfugié. Il a dû partir parce qu'il y a la guerre en Syrie. Il y a la guerre en Syrie depuis 9 ans. Il a fui parce qu'il est chrétien. Son nom de famille signifie le prêtre. Il est donc et très vite repéré et se fait arrêter par Daesh. Donc c'est très compliqué pour lui. Il y a une guerre civile en Syrie. La Syrie, en forme longue, la République arabe syrienne, est un pays d'Asie de l'Ouest situé sur la côte orientale de la mer Méditerranée.
Daesh est une organisation terroriste, militaire et politique, d'idéologie djihadiste, ayant proclamé le 29 juin 2014 l'instauration d'un califat sur les territoires sous son contrôle.
Vous a manqué dans votre pays ?
Mon père, Ah oui.
Ah. Votre famille là-bas?
Ma mère est morte, ça fait en 2014, et mon père, il habite tout seul maintenant.
Ok.
Je lui quittais tout seul, ça fait 12 ans et 4 mois. Et il était un peu âgé, il est 71 ans. Mais heureusement, ma soeur, elle habite à côté de lui. Elle a besoin d'une minute pour arriver chez lui. Non, pas une minute, 3 minutes.
Maher est en France depuis 2 ans et 4 mois. Il apprend la langue française depuis 1 an et demi. Il étudie avec le Buddy System Réfugié à la faculté de Poitiers au centre FLE, français, langue étrangère. Maintenant, il travaille en plus dans une petite boutique.
Buddy System Réfugié est une association qui aide les réfugiés à apprendre le français.
Difficile, oui. La langue. Et parce que quand je suis arrivé là, j'étais comme un petit enfant. Parce qu'il faut apprendre comment je parle avec les autres. C'est la première. Deuxième chose, je ne sais pas la ville où j'habite. Donc j'étais comme le petit enfant. Il faut savoir, je pars par où, je prends quel bus, veux acheter ce truc-là. Donc c'était très difficile au début.
Maher est arrivé directement en avion parce que sa femme était en France avant lui. Il est venu là pour rejoindre sa femme qui a obtenu le statut avant lui. Ils ont fait un rapprochement familial. Il a obtenu le statut de protection subsidiaire.
Sur le front d'Iblib, le dernier fief de la rébellion dans le nord-ouest du pays. Les troupes loyalistes savourent un répit d'une durée inédite. Le régime ne semble pas prêt de relancer l'opération de reconquête de ce territoire. 10 ans après le déclenchement de la crise, les régions bombardées restent des champs de ruines. Toujours pas de reconstruction en vue. Et les Syriens vivent une immense détresse humaine, économique et sociale, à laquelle s'ajoutait la crise sanitaire du Covid. Répression meurtrière de manifestations pro-démocratiques pacifiques. Ce conflit s'est transformé au fil des ans en une guerre complexe impliquant factions rebelles, groupes djihadistes et puissances étrangères. La guerre a dévasté le pays et a fait au moins 384 000 morts, dont plus de 160 000 civils en Syrie. Plus de 260 000 personnes ont perdu la vie depuis 2011. La moitié de la population du pays a fui le 15 mars 2011.
Merci à tous ces sujets passionnants qui ont permis d'humaniser l'immigration.
C'était Maxence
et Lucas dans Parcours de migrants.
Parcours de migrants.
Histoire singulière.